Santé d'Africa Radio, la prévention en partenariat avec Santé publique France.
Le 23 mai prochain sera la journée européenne de l'obésité. Le nombre de personnes obèses a augmenté de 161% en moyenne depuis 1975 dans l'Union européenne, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle étude britannique pointe du doigt le risque de formes graves de la Covid-19 liées à l'obésité, en mettant en évidence la surreprésentation des personnes ayant un IMC supérieur à 23 dans les services de réanimation. En France, 47% des malades en réanimation et 40% des décès sont des personnes souffrant de problèmes de poids. La situation de l'obésité en France et les risques de faire une forme grave de la Covid-19, nous en parlons ce matin avec nos invités, Nadir.
Docteur Alexandre Cortès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent ce matin. Vous êtes médecin, chef du service de chirurgie viscérale et abdominale aux hôpitaux de Jossigny et Coulommiers en Île-de-France. Merci d'être présent ce matin. Avec nous également Anne-Sophie Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Docteur Alexandre Cortès, tout d'abord, comment se mesure l'obésité? À partir de quel poids une personne est qualifiée d'obèse ou est en situation de surpoids?
Oui, bonjour. Alors, pour mesurer l'obésité, on a fait en sorte que tout le monde parle de la même façon. Et on ne parle pas en poids. On a essayé d'harmoniser cette mesure. On parle du ratio entre le poids sur la taille au carré, ce qui donne un nombre. Ce nombre s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et à partir de ce nombre, plus il est important, plus on définit le surpoids ou l'obésité. On est en surpoids au-delà de 25 et on est considéré comme obèse au-delà de 30.
Docteur Alexandre Cortès, quelles sont les causes de l'obésité?
La principale cause d'obésité, c'est avant tout, il y a deux grandes causes. Il y a la génétique, il y a des familles qui sont pourvoyeurs d'obésité, et ensuite il y a le mode de vie. Et dans le mode de vie, on peut classer les différents groupes que sont la sédentarité, ce que j'appelle vulgairement la malbouffe. Donc il y a les modifications de notre mode de vie associées à certaines formes familiales.
Anne-Sophie Joly, est-ce que vous aussi, vous avez constaté au sein de votre collectif une augmentation très nette de l'obésité en France, et comment l'expliquez-vous?
Alors, l'obésité ne s'arrête pas, hein, ça là-dessus, malheureusement, on est assez raccord. On a fait, mais alors j'entends très très mal le son au niveau d'Alexandre et de Aïssa. Je t'entends pas très bien. Juste pour vous rappeler, effectivement, il y a 15,7% de personnes qui sont en situation d'obésité et 33,1% en surpoids, ce qui fait en fait un total de la population de 48,8% qui sont en situation d'obésité, voire de surpoids et obésité, voire obésité morbide. Elle avance, pourquoi? Parce que finalement il y a un mélange de plein de choses. C'est à la fois une augmentation, puis le Covid n'a été qu'un énorme accélérateur, et on sait pourquoi, de sédentarité. Il y a également une alimentation qui est ultra transformée. Et puis, il y a ce qu'on appelle donc les entrants et les exposones, qui sont en fait des facteurs environnementaux extérieurs, telles que la pollution, etc. Donc il y a un mélange de plein de choses, mais au-delà de ça, il y a aussi, finalement, on est moins équipé en termes de microbiote et on le cultive beaucoup moins. Donc ce sont les bactéries qu'on a dans l'estomac et dans les intestins qui sont d'une... Enfin, les médecins le diront nettement mieux que moi. Moi, je ne suis qu'une simple patiente qui sont d'une importance capitale.
Quelles sont, Anne-Sophie, je vous dis, aujourd'hui, les personnes les plus concernées, les femmes, les hommes, les jeunes ?
Alors là, j'ai repris effectivement les chiffres qui sont présents sur l'étude de Santé publique France, qui est une étude Esteban, mais qui date encore un petit peu, où on est à... Alors là, ça s'est renversé parce qu'il y a 20 ans, c'était plutôt les femmes. Là, on est à 53,9% de population d'hommes concernés et 44,2% chez les femmes, tout âge confondu. Et on a de l'autre côté 18,4% des adolescents qui sont en surcharge pondérale, mais ce sont des chiffres qui datent de 2009. Donc moi, j'aurais envie de vous dire qu'on a augmenté, on est plutôt autour de 20% et qu'on est, alors les chiffres pareils, hein, qui datent de 2009, de 5,2% d'obèses chez les jeunes. Là, j'ai envie de vous dire également, ça a augmenté. Le souci, c'est que ça augmente principalement, que ce soit les chiffres hommes, femmes, enfants, sur des familles qui sont soit monoparentales ou soit effectivement des plus défavorisées. Et je jette pas la pierre, entendons-nous bien, c'est que la priorité quand vous êtes une famille, c'est de payer les factures et d'essayer de donner à manger à tout le monde. Et qu'effectivement, la problématique de rester en bonne santé, c'est pas ce qu'on voit en premier. Donc là, il y a nécessité absolue de faire au mieux pour pouvoir éduquer, informer, enfin faire de la prévention, quoi. Ce genre de choses qui n'est absolument pas du tout mis en valeur, ni fait à ce jour, ce qui est un des combats du collectif.
Docteur Cortès, plusieurs études montrent que les femmes migrantes ou issues de l'immigration maghrébine ou subsaharienne sont plus fréquemment en situation de surpoids et d'obésité que les femmes dans l'ensemble de la population. Au sein des hôpitaux où vous travaillez, est-ce que vous faites également ce constat ?
Oui, le constat existe. Après, vous allez me poser la question pourquoi, et j'aurai des difficultés à vous répondre. Mais le constat est réel, je le partage.
Quelles sont, docteur, les conséquences de l'obésité sur la santé ?
Elles sont majeures, elles sont extrêmement importantes et diverses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obésité va induire chez les malades des complications directement secondaires à sa présence. Alors, les plus connues sont l'hypertension artérielle, le diabète, mais également des problèmes respiratoires avec ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil. C'est le fait tout simplement de faire des pauses respiratoires pendant son sommeil et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais également l'obésité va augmenter les problèmes d'infertilité et va également augmenter de façon très nette le nombre et l'incidence du cancer chez les gens obèses. Donc, pour faire simple, l'obésité va induire jusqu'à près de 17 complications du fait de sa présence. Et ce qu'il faut comprendre, chez les obèses morbides, l'espérance de vie, du fait de la présence de toutes ces complications, réduit l'espérance de vie des malades obèses.
Anne-Sophie Joly, il y a également des conséquences psychologiques qui sont importantes.
Alors oui, alors il y a, c'est ce qu'on a, on a tendance à appeler la grossophobie, c'est-à-dire qu'en fait on sait plus à un moment donné qui est l'œuf ou de la poule en fait. Est-ce qu'effectivement c'est l'obésité qui fait que, ben, de toute façon on le vit déjà mal, hein, nous en tant que patients, ça il faut l'entendre, que c'est pas un choix de vie, c'est pas une décision, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, hein, parce que sinon il y aurait pas tout un tas de vendeurs de rêves de régimes qui est surtout, et ça je tiens à redire aussi, les régimes qui ne sont pas du tout accompagnés dans un milieu multidisciplinaire médical est une fabrication d'obésité et de poids, ça il faut le savoir. Donc oui, les gens vous regardent en vous disant bah en fait voilà, il ou elle n'est pas capable de se contenir et puis donc en fait se jette sur la nourriture, c'est pas ça du tout. Et de l'autre côté, c'est il y a aussi beaucoup de discrimination à l'embauche parce que les gens se disent bah oui, bah, il ou elle a un problème de poids, donc en fait ben bah, plus il est gros, plus il est bête hein. Je la fais un peu cash, mais ça revient un peu à ça. Et il y a des études qui ont été faites qui disaient que ben finalement vous mettez deux personnes avec exactement la même formation et la même compétence à la base, et ben en fait la personne qui a un poids dit normal sera considérée par les employeurs comme étant quelqu'un qui a deux diplômes supérieurs en plus. C'est juste abominable. Donc on est rejeté. Je veux pas faire mon caliméro, hein, mais on est vraiment rejeté de la société. On a besoin d'un regard bienveillant, et je pense que les gens ne savent pas, et c'est aussi un des combats du collectif, la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie. Parce qu'elle est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 1997. Et en France, elle n'est toujours pas reconnue, alors que l'État français, on a fait le plan obésité 2010-2013. Là, on est sur l'écriture de la feuille de route obésité au ministère de la Santé, qui est la continuité, en fait, si vous voulez, du travail du plan obésité, notamment sur la prise en charge de ce qu'on appelle deuxième et troisième recours. Il y a également le PNNS4, donc Plan National Nutrition Santé, qui est très ambitieux et qui est très pragmatique sur comment on doit faire sur la population. Il y a le Conseil National de l'Alimentation qui fait aussi énormément de choses que la population ne peut pas voir, mais ça a commencé par le taux de sel dans le pain. Parce que plus vous mangez de sel, plus vous êtes à risque, je parle en règle générale, d'avoir des problèmes cardiovasculaires, d'arythmie cardiaque, d'AVC, etc. Donc, comme le disait Alexandre, l'obésité génère 18 pathologies avec le Covid. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on monte à 19. Donc, en fait, on est excessivement à risque.
Nous avons en ligne le docteur Anno Marin. Bonjour, docteur.
Bonjour, Nadie. Bonjour.
Merci beaucoup d'être présent ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Docteur Anno Marin, est-ce que l'obésité en Côte d'Ivoire est considérée comme un problème de santé publique majeur par les autorités ?
Ah oui, effectivement, parce que comme le disaient mes confrères tout à l'heure, l'obésité est source de pathologie. Donc il y a différents programmes, le programme nutritionnel, le programme de lutte contre les maladies métaboliques. Donc tous ces programmes-là, toutes ces entités-là prennent en charge le problème de l'obésité.
Est-ce qu'elle a augmenté ces dernières années ?
Alors, oui, quand même, comme on le dit, hein, avec le Covid, le télétravail, et la sédentarité à la maison, les gens sont moins actifs, déjà que les gens ne sont pas assez sportifs, donc l'obésité, surtout dans une catégorie de population, a augmenté.
Mais laquelle catégorie de population, hein, docteur Anno Marin ?
Alors, c'est les travailleurs, c'est-à-dire les populations de conditions modestes qui pouvaient s'offrir autant de repas, grignoter aux heures perdues, étant à la maison, on est tout le temps, on a tout le temps le nez dans le réfrigérateur. Et c'est cette population-là qui, effectivement, avait une activité sportive peut-être trois fois par semaine, qui s'est abstenue, donc... ça prend du poids.
Docteur Anno Marin, on a entendu Anne-Sophie Joly qui parlait de discrimination, de crainte, de stigmatisation. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez observé en Côte d'Ivoire, notamment dans le milieu du travail, hein, parce qu'on rappelle que vous êtes médecin du travail également.
Oui, il y a ce complexe d'abord. Moi, je dirais ce complexe concernant la personne elle-même qui est obèse. Et il y a... pas de discrimination en tant que telle, mais une stigmatisation, parce qu'il y a des langages souvent pas assez commodes. Ah oui, mais tu as pris du poids, tu es gros, tu es grosse. Alors, ce genre de propos, effectivement, je pense que entraîne un complexe et entraîne une stigmatisation, à la limite, je dirais peut-être une discrimination sans le vouloir, parce qu'en tant que médecin du travail, il a des activités professionnelles où, en fonction du poids, vous ne pouvez pas l'exercer. Par exemple, dans le BTP, où est-ce qu'il faut travailler en hauteur, dans l'électricité, où est-ce qu'il faut monter et sur des pylônes. Je pense que c'est pas des conditions indiquées. Quelqu'un qui fait plus de 100 kilos, je pense que c'est déjà des facteurs. Ce n'est pas une discrimination en tant que telle, mais c'est une inaptitude.
En France, 47% des malades en réanimation et 40% des décès liés à la Covid-19 sont des personnes souffrant de problèmes de poids. Docteur Cortès, comment on l'explique ?
Alors ça, il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, la façon la plus simple de raisonner, c'est de dire, le malade obèse présente un certain nombre de complications telles que l'hypertension artérielle et le diabète, et comme il est porteur de ces complications, il est plus fragile que les autres, donc il va plus souvent en réanimation. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on dit, les malades obèses ont des problèmes respiratoires compte tenu de l'augmentation de la masse corporelle. Il y a une compression, pour parler très simplement, au niveau des poumons. Et les troubles respiratoires et ventilatoires peuvent arriver rapidement chez le malade obèse du fait de sa conformité. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et puis, il y a une troisième hypothèse qui apparaît, qui est beaucoup plus générale, mais qui semble extrêmement importante. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le malade obèse souffre en fait d'une inflammation chronique, c'est-à-dire que la présence en excès du tissu graisseux induit dans l'organisme une inflammation chronique, et c'est certainement cette inflammation chronique qui est responsable d'une augmentation des cancers à long terme. Et comme vous l'avez beaucoup entendu autour du Covid-19, les malades qui rentrent en réanimation, c'est surtout une surexpression des phénomènes inflammatoires au cours de la maladie. Et une troisième hypothèse, c'est donc que chez un malade qui est déjà porteur d'une inflammation chronique, se surajoute une maladie qui joue sur l'inflammation et qui va accentuer, avec les deux premières causes que je vous ai déjà données, qui explique l'ensemble des hospitalisations en réanimation.
Docteur Cortès, vous êtes chef de service dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne. Alors, vous avez constaté la présence importante de personnes obèses en réanimation pour Covid dans vos services. Comment cela se passe en termes de soins en réanimation ? Quels soins essentiels donne-t-on aux personnes obèses ou en surpoids en réanimation ?
Alors, la prise en charge du malade obèse en réanimation n'est pas très différent des autres, en dehors d'un certain nombre de points très précis. Au niveau de la ventilation, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, quand la maladie Covid-19 évolue défavorablement, on est obligé de brancher, de faire respirer les malades grâce à un appareil qu'on appelle un respirateur. Et donc, on règle des pressions d'insufflation, des pressions pour faire... Et donc là, on est obligé d'augmenter les pressions sur le respirateur pour faire respirer ces malades. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'un malade obèse sera ventilé plus longtemps. Ça va augmenter la durée de séjour en réanimation. Ensuite, il y a une chose un petit peu plus terre-à-terre et pragmatique, c'est que quand les malades sont très très graves, un des derniers outils qu'on a pour essayer de passer des caps, c'est de faire... On allonge les malades sur le ventre, c'est ce qu'on appelle en médecine le décubitus ventral. Tout simplement, il faut imaginer que retourner un malade pour le faire respirer sur le ventre, quand il est déjà branché à un respirateur, à des tas de tuyaux, c'est extrêmement compliqué pour le personnel de réa, et ça peut exposer le malade aussi à un certain nombre de soucis. Donc les particularités du malade obèse en réa, 1, il est plus grave, 2, il est ventilé plus longtemps, 3, il reste plus longtemps en réanimation.
Docteur Nomara, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, un fort pourcentage de personnes en réanimation pour Covid concerne des personnes obèses ?
Oui, effectivement, l'obésité est un facteur de risque de comorbidité aujourd'hui dans cette maladie. Donc, toute personne, comme le disait mon prédécesseur, aujourd'hui l'obésité est facteur de risque de maladie respiratoire. Viendra se compliquer un Covid avec tous ces problèmes d'insuffisance respiratoire, d'atteinte respiratoire. On en retrouve effectivement avec les personnes qui présentent d'autres pathologies métaboliques, celles qui seraient obèses.
Anne-Sophie Joly, quels sont pour vous les principaux enjeux de la prévention lorsque c'est possible, avant que la pathologie de Covid-19 ne se développe chez des patients obèses?
J'aime quand vous me parlez. Oui, alors je suis désolée, ça vient du cœur, parce que c'est 21 ans de combat associatif bénévole. Pour moi, la priorité, alors je suis désolée, je vais être un peu militantiste, mais en fait, on le voit, parce que quand on s'énerve et quand on est plusieurs et sur un travail d'équipe dont les médias font partie, c'est hyper important. Pour moi, il faut un plan décennal. Un plan qui soit interministériel, qui soit avec des sociétés privées et effectivement des sociétés étatiques, j'ai envie de dire, sur la prévention dès l'instant où la maman est en désir d'enfant, le couple est en désir d'enfant. Parce que là, déjà, vous pouvez avoir un pouvoir d'action sur ce que vous allez transformer vos œufs et pour la femme et le sperme chez le papa, 3 mois avant. Il y a déjà un pouvoir d'action. Après, il y a effectivement toute la grossesse qui est hyper importante. Et puis, dès la crèche. C'est-à-dire que dès la crèche, avoir une nourriture qui soit transformée sur place, qui soit avec une activité physique pour les enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut remettre des endroits où on peut jouer, etc. Et puis, avoir la reconnaissance de la pathologie. C'est-à-dire qu'on puisse prendre en charge la population dès l'instant où on voit qu'effectivement il y a des facteurs d'aggravation sur le poids ou sur l'apparition de certaines pathologies, sans être stigmatisant, sans être punitif, en étant bienveillant. Et j'ai envie de vous dire, moi j'avais une dame qui me disait, mais j'ai 60 et quelques, je vais pas me mettre à courir. Et je la regarde et j'ai dit, est-ce que vous aimez danser? Et là, elle me regarde, elle a les yeux qui pétillaient, puis elle me dit, j'adore ça. Je dis, mais dansez, en dansant, vous faites plaisir, et en plus, vous êtes dans une activité physique. Donc, en fait, il y a plein de petits trucs qui peuvent faire que les choses peuvent avancer. Et il faut qu'on soit reconnu comme étant une grande cause nationale. C'est pour ça qu'on a fait une pétition sur notre site internet, que les gens peuvent retrouver sur le cnao.fr.
Anne-Sophie Joly, est-ce qu'il est primordial, hein, rapidement, hein, pour vous, que les personnes en surpoids se fassent vacciner aujourd'hui,
oui,
contre la Covid-19?
Oui, c'est un cri du cœur viscéral. Oui, oui, parce que en fait, là, alors effectivement, j'entends très mal Alexandre, mais Alexandre a été vacciné. Et en fait, il a été qu'à contact. Donc, en fait, il a fait une forme moins grave, pas grave du tout, en fait, du Covid. Ça sauve des vies. Je peux comprendre que les gens se disent, on est à un an d'une création d'un vaccin, alors qu'en fait, pour certains vaccins, il faut 10 ans. On est sur une guerre planétaire. Et que cette guerre planétaire tue énormément de monde. Je sais plus combien c'est, mais j'ai eu le chiffre, mais je ne vais pas vous raconter de bêtises. C'est énorme. On perd des vies. Et on perd des vies jeunes. Personne n'est à l'abri. Donc, en fait, je ne veux pas mettre le stress à qui que ce soit. Moi, je veux juste dire que pour ma part, je veux rester en vie. Je me suis fait vacciner. Mmh.
Docteur Alexandre Cortès, quel type de vaccin conviendrait mieux aux personnes ayant des problèmes de surpoids, d'obésité? Quel vaccin vous conseillez?
Rapidement.
Alors, une réponse très simple, faites-vous vacciner. Le débat, quel type de vaccin, ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu. Devant l'importance de l'épidémie et les conséquences du Covid-19, il faut se faire vacciner. Donc, je refuse de rentrer dans la polémique. On a une chance énorme. On vit avec des vaccins gratuits, des soins gratuits. On peut se faire vacciner. Comme le disait Anne-Sophie il y a 2 minutes, moi je peux vous témoigner personnellement que faire le Covid quand on est vacciné, c'est pas le même Covid, c'est une balade de santé, d'accord? Et là, c'est un plaidoyer pour la vaccination. Ne rentrons pas dans ce piège, on n'achète pas une voiture avec le vaccin, on se protège soi et on protège les siens. Donc faites-vous vacciner, puisque tout le monde maintenant a accès à la vaccination. Et allez-y en vous disant que quand on vous fait vacciner, on vous offre une chance à vous et à vos proches d'aller bien.
On va terminer sur cette conclusion. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Anne-Sophie Ajoli. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses. Merci de vous être rendue disponible. Merci également, docteur Alexandre Cortet. Je rappelle que vous êtes chef du service chirurgie viscérale et abdominale aux hôpitaux Jossigny et Coulommiers en Ile-de-France. Merci à vous également d'être intervenu en duplex d'Abidjan, docteur Anou Marin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'espace médical La Pyramide en Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois. Cette émission, vous pourrez la télécharger dans quelques heures sur les réseaux d'Africa Radio. On se retrouve pour la suite dans un instant.